Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Des chercheurs français élucident la terrible efficacité d'un parasite asiatique qui ravage les abeilles en Europe et aux États-Unis.
Le varroa, il est un parasite endémique du sud-est asiatique sur l'abeille Apis cerana. Et il est passé sans doute au début du siècle dernier sur l'abeille Apis mellifera et il a envahi le monde entier.
Yves Lecomte, directeur de recherche INRA, nous en dira davantage. Journée mondiale du donneur de sang, l'OMS demande aux volontaires d'être plus nombreux.
C'est toujours très important de rappeler que donner du sang, c'est sauver des vies. Et c'est pour cela que cette année, le thème est « Merci de me sauver la vie ».
On entendra Tariq Jasarevich de l'Organisation mondiale de la santé et le vaccin BCG présente un nouvel espoir dans la lutte contre le diabète de type 1. À l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin, l'Organisation mondiale de la santé lance un appel pour que les dons de sang volontaires non rémunérés soient plus nombreux dans tous les pays du monde afin de sauver des millions de vies chaque année. On écoute Tariq Jasarevich, porte-parole de l'OMS.
C'est toujours très important de rappeler que donner du sang, c'est sauver des vies. Et c'est pour cela que cette année, le thème est « Merci de me sauver la vie ». On essaie vraiment de dire aux gens d'essayer de se mettre à la place de la personne dont la vie a été sauvée par quelqu'un qui est allé de manière volontaire et sans rémunération, qui a donné son sang. Vraiment, on utilise chaque année cette journée mondiale du donneur de sang qui est le 14 juin, pour rappeler qu'il est vraiment important que chacun aille vers les établissements de santé et fasse ce premier pas pour vraiment sauver la vie de quelqu'un d'autre.
Les hémorragies sévères au cours de la grossesse, de l'accouchement ou après la naissance sont la toute première cause de décès maternel et ces décès pourraient être mitigés et empêchés par des dons de sang.
Écoutez, c'est exactement ça. Donc, sur quelques 290 000 décès des femmes survenus de 2013 du complications au cours de la grossesse d'accouchement, 27% étaient dus à des hémorragies sévères. Et donc, voilà, ce qu'on essaie vraiment de comprendre ici, pourquoi ce manque des ressources en sang, on sait qu'il y a 75 pays en ce moment qui indiquent qu'ils sont en dessous du seuil minimum pour garantir une disponibilité générale et suffisante de sang. On sait que le minimum, c'est 10 dons de sang pour 1000 personnes, alors que voilà, on dit qu'il y a un grand nombre de pays qui n'arrivent pas à assurer cette sécurité.
En fait, certains pourraient dire qu'avec la médecine moderne, on a le droit de s'imaginer qu'on a moins besoin de sang, mais la vérité, c'est que les besoins en sang et produits sanguins augmente chaque année dans de nombreux pays, notamment les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.
Voilà, effectivement, les besoins sont grandissants. On sait que la plupart, vraiment la moitié des dons de sang se font dans les pays à revenu élevé, alors que ces pays n'abritent que 15% de la population mondiale. Donc, il est vraiment important que les autorités nationales dans tous les pays du monde nous suivent dans cette campagne pour encourager chacun à faire ce pas qui peut vraiment sauver la vie d'un autre concitoyen.
Tariq Jasarevich, porte-parole de l'OMS, il était joint à Genève. Le vaccin bilier de Calmette et Guérin, le plus souvent dénommé vaccin BCG, est un vaccin contre la tuberculose administré aux nouveau-nés dans les pays où la maladie frappe toujours. Il provoque une réaction qui entraîne la production de l'hormone la plus susceptible de tuer le bacille de la tuberculose. Mais voilà, De nouveaux travaux montrent qu'il présente également un nouvel espoir dans la lutte contre le diabète de type A. Jacques Aristide explique.
Utilisé pour la vaccination contre la tuberculose et le cancer de la vessie, le BCG est également connu pour augmenter le taux de l'hormone TNF qui tue le bacille de la tuberculose. C'est ce qui lui vaut d'être testé contre différentes maladies auto-immunes, dont le diabète ou encore la sclérose en plaques. Une équipe dirigée par Denise Fossman du Massachusetts General Hospital à Boston aux États-Unis avait ainsi montré en 2012 dans PLOS ONE que le TNF ainsi produit était capable d'éliminer temporairement les auto-anticorps responsables du diabète et de restaurer ainsi la production d'insuline pancréatique. Plus précisément, le TNF détruit les cellules T, une catégorie de leucocytes qui joue un grand rôle dans la réponse immunitaire secondaire et qui attaque le pancréas.
Partout dans le monde, il y a des centaines de souris diabétiques heureuses en stade final de la maladie qui sont très contentes d'avoir reçu le BCG et qui sont toutes en bonne santé. Alors maintenant, chez les humains atteints de diabète, nous tentons d'obtenir les mêmes résultats pour voir si nous pouvons obtenir un effet aussi spectaculaire.
Lors de la première phase de test, le produit a déjà réussi à inverser le diabète de souris et celui de 103 humains. Lors de la deuxième phase de test, qui va bientôt commencer, le vaccin sera testé durant 5 ans sur 150 malades souffrant de la maladie depuis 15 ou 20 ans. Ces malades âgés de 18 à 60 ans recevront deux injections à 4 semaines d'intervalle, puis une autre injection 4 années d'affilée. Le BCG fait également l'objet d'essais contre d'autres maladies auto-immunes.
Je pense qu'au cours des 5 prochaines années, nous allons voir beaucoup de données résultant de nombreux différents paramètres cliniques de réponses immunitaires anormales. Qu'il s'agisse d'allergies ou de l'auto-immunité, de la sclérose en plaques ou du diabète de type 1, montrant comment le vaccin peut inverser ces terribles maladies de notre société moderne.
La sclérose en plaques est l'une des principales causes de handicap chez les jeunes. Après les accidents de la route, on ignore la cause exacte de cette maladie réputée incurable qui s'attaque au système nerveux central, la moelle épinière et le cerveau.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. Après l'Europe et les États-Unis, l'Afrique du Sud est à son tour touchée par la disparition des abeilles, indispensables pollinisatrices d'un grand nombre d'espèces végétales nécessaires à l'alimentation. Une épidémie de loque américaine, une maladie mortelle pour les ruches causée par un germe, est en train de faire des ravages pour la première fois dans l'histoire récente du pays, signale l'agence France Presse. C'est une bombe à retardement. Toutes les ruches que j'ai examinées avec un cas de loque américaine sont mortes, explique Mike Alsop, agronome spécialiste des abeilles à Stellenbosch, près du Cap, qui est cité par l'AFP. Entre-temps, des chercheurs français, en collaboration avec des collègues américains et chinois, viennent d'apporter un nouvel éclairage sur le parasite qui affecte les abeilles européennes et américaines. Il s'agit du Varroa destructor, un acarien parasite qui a la capacité d'imiter la composition chimique de la cuticule de son hôte, mais peut également changer cette composition en fonction de l'espèce qu'il parasite. Cette faculté d'adaptation étonnante pourrait expliquer comment ce parasite de l'abeille asiatique a pu coloniser l'abeille européenne et américaine, contribuant ainsi au déclin des espèces, soulignent les chercheurs de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, au CNRS, et du laboratoire Abeilles et environnement de l'INRA. Pour plus de précisions, on écoute M. Yves Lecomte, directeur de recherche INRA.
Le varroa, il est un parasite endémique du sud-est asiatique sur l'abeille Apis cerana. Et il est passé sans doute au début du siècle dernier sur l'abeille Apis mellifera et il a envahi le monde entier sur notre abeille, l'abeille européenne, celle qu'on utilise pour faire beaucoup de miel, et celle que vous avez aux États-Unis, qui s'appelle Apis mellifera. Et donc ce parasite s'est propagé dans le monde entier. Et donc, si vous ne traitez pas vos abeilles avec des acaricides, bien vos colonies succombent à ce parasite.
Mais quand vous dites traiter avec des acaricides, est-ce que ces produits chimiques ne présentent pas d'autres inconvénients pour l'abeille ?
A priori, non. Ils ont été testés pour tuer les acariens, mais pas les abeilles. Alors après, ils peuvent interagir peut-être avec d'autres molécules chimiques, mais a priori, c'est fait pour ça, quoi. Il y a des autorisations de mise sur le marché, etc., qui vérifient qu'il n'y a pas de résidus dangereux pour l'homme dans le miel et que ça tue pas les abeilles. Mais bon, ça reste quand même une lutte chimique avec les inconvénients que les acariens deviennent résistants aux molécules, comme en protection des cultures, avec les ravageurs des cultures. C'est le même schéma.
Et il n'y a pas de défense naturelle contre ce parasite ?
Alors si, il y a des défenses naturelles. Apis cerana, donc l'abeille qui est l'hôte d'origine de cet acarien, elle arrive à bien lutter contre l'acarien. Mais notre abeille à nous, l'abeille européenne, Apis mellifera, elle n'arrive pas à lutter aussi bien. Alors pourquoi ? Parce que le varroa, il est mimétique. Et c'est ce qu'on a montré dans notre papier, qu'il arrive à mimer l'odeur coloniale. L'odeur coloniale, c'est très important chez les abeilles, parce qu'en fait, quand une jeune abeille éclot de son alvéole, la première chose qu'elle va faire, c'est mémoriser l'odeur de la colonie. Chaque colonie a sa propre odeur, qui est basée sur un mélange d'à peu près 50 à 80 molécules, qui sont toutes présentes, mais dans des proportions différentes. Et en fait, les abeilles, elles apprennent les proportions, donc l'odeur de la colonie. Alors c'est très important parce que à l'automne, quand il n'y a plus rien à butiner, eh bien les abeilles, elles ont tendance à aller se piller les unes les autres. Et pour éviter le pillage, eh bien vous avez les abeilles gardiennes et dans la ruche, en permanence, les abeilles s'inspectent. Avec leurs antennes, ça fait un petit peu comme un code-barre, les antennes qui vont toucher l'abeille d'à côté, etc. Dit, ah bah oui, toi, ça va, t'es de mon nid, puis tout d'un coup, il y en a une qui peut être une pillarde, qui sent pas pareil, entre guillemets, et donc et qui se fait chasser de la colonie. Et si elle insiste, elle se fait tuer. Donc ça, c'est extrêmement important à l'automne, parce que si les colonies sont pas capables de reconnaître les abeilles qui sont de leur nid, eh bien, elles se font piller leurs réserves de miel, à tel point qu'elles pourront pas passer l'hiver puisqu'elles auront plus d'énergie pour passer l'hiver, plus de miel pour passer l'hiver. Donc au niveau adaptatif, c'est extrêmement important. Donc la question, c'est de dire, mais comment fait le varroa ? Le varroa, quand il rentre dans une colonie sur une abeille pieuse ou parce que l'abeille s'est trompée de ruche, etc., il va passer sur une autre abeille, l'abeille de la colonie dans laquelle il vient d'être introduit. Comment se fait-il qu'il arrive à survivre dans ce système ? Eh bien, on a montré dans notre papier que le varroa devient très très vite mimétique de l'odeur coloniale et comme ça se fond dans la masse.
Et c'est comme ça qu'il attaque les abeilles.
Mais, alors, je finis de répondre à votre question, comme ça vous aurez tout le pattern. Mais vous avez quand même quelques colonies d'abeilles, notamment celles qui ont été sélectionnées par l'USDA à bâton rouge, qui sont, on les appelle varroa sensitive IGN. Donc ils sont capables de reconnaître les alvéoles qui contiennent des varrois et leurs petites familles. Et donc elles ouvrent l'alvéole et elles détruisent toute la petite famille et elles essayent de détruire tous les varrois qui sont dedans. Donc là, les varrois, le fait d'être mimétiques, ça leur suffit plus. Il y a certainement des molécules, des odeurs, qui permettent aux abeilles de reconnaître que l'alvéole est infestée par les varrois et qui permet aux abeilles de les détruire. Donc là, vous voyez, il y a ces deux systèmes-là. Un système qui leur permet très vite de se masquer, de devenir mimétiques, mais manque de peau, ce sont des varrois et donc ils émettent, alors on ne sait pas d'où, quelques molécules qui leur permettent d'être identifiées par les abeilles. Et donc, nous, on travaille aussi sur ce système-là, parce que quand on aura découvert ces molécules, on pourra les utiliser pour notamment que les apiculteurs puissent sélectionner des colonies qui développent ces comportements. Et là, ensuite, on n'aura plus besoin de traiter contre le varroa avec des molécules chimiques.
Monsieur Yves Lecomte, directeur de recherche INRA, il était joint en France. Les travaux des chercheurs ont été publiés dans la revue Biology Letters. Camille Grodidier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, diffusée sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Depuis août 2012, le robot Curiosity de la NASA, l'agence spatiale américaine, se promène à la surface de Mars. Mais voilà, le climat martien étant loin d'être clément, ses instruments ChemCam et SAM, c'est-à-dire le premier une caméra chimique et le second un outil d'analyse des échantillons de sol, ont dû être réparés, et ce à 350 millions de kilomètres de la Terre. Ils sont redevenus pleinement opérationnels grâce à l'intervention d'équipes françaises. Je laisse Sylvestre Maurice, chercheur CNRS à l'Université Toulouse 3, vous en dire plus.
On est historiquement, hein, quasiment très impliqué dans la mission Curiosity, puisque des 10 instruments qui font partie de la charge utile, nous sommes fortement engagés sur deux d'entre eux, sur l'instrument ChemCam. Nous avons fait une grande partie de l'instrument, la plus grande partie d'ailleurs, la partie active, les lasers, le télescope qui sont en haut du mât de Curiosity. Et puis dans l'instrument SAM, pour lequel nous avons fait les colonnes d'analyse qu'on appelle de chromatographie, les colonnes d'analyse des gaz. Et là, ça se situe dans le corps du rover.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes techniques avec ces instruments?
Alors, tout a très bien marché pendant très longtemps. Et puis, comme tout engin d'une telle technologie, eh bien, on a eu des petits problèmes techniques et on en rencontre très souvent. Et puis, notre défi, notre challenge, c'est vraiment de les réparer. Et on dit à très grande distance, parce que là, en l'espèce, on est à plus de 300 millions de kilomètres. Et à plus de 300 millions de kilomètres, sur, par exemple, l'instrument ChemCam, il y a un tout petit composant électronique qui s'est mis en un mode dégradé. Alors, ça nous a permis d'utiliser l'instrument en faisant de la très bonne science pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, mais avec peu d'efficacité. On faisait beaucoup de tirs laser pour finalement avoir une très bonne science, mais on utilisait un peu trop de ressources, je dirais. Et puis, on a travaillé au laboratoire, on a imaginé comment on pouvait réparer cet instrument. On a fait des tests en laboratoire, on a développé un nouveau code, et à la fin, on a compris qu'il fallait complètement reprendre l'instrument, le coder. Alors évidemment, à distance, on ne va pas changer du matériel. Ce qu'on fait, c'est on change du code, des façons de l'opérer. Alors on a changé du code et on a complètement redessiné le code. On l'a testé, on a envoyé ça à bord de Mars, et puis un jour on lui a dit, ben voilà, pas sur le nouveau code. On a fait toute une série de validations et maintenant l'instrument remarche. Il remarche aussi bien qu'au premier jour quand il était sur Mars, avec un nouveau cerveau en quelque sorte.
Mais éclairez-moi, parce que moi je représente le grand public qui n'y connaît pas grand-chose. Ce qui me semble miraculeux dans l'affaire, c'est qu'on soit ici sur Terre, mais qu'on arrive à faire bouger quelque chose qui est à plus de 300 millions de kilomètres de distance.
Si vous me permettez de vous corriger, ce n'est pas un miracle, c'est de la science. Et la science, c'est un ensemble de savoir-faire, de technologie. Et c'est-à-dire qu'on a déjà ce merveilleux rover de la NASA qui s'appelle Curiosity, qui est sur Mars, et puis Mars oscille entre à peu près une cinquantaine de millions de kilomètres de la Terre et 350 millions. Finalement, c'est la distance de la Terre à Mars qui varie. Mars, en ce moment, et d'ailleurs, sachez qu'il est au plus loin, puisqu'on a pratiquement un alignement parfait entre la Terre, le Soleil et Mars. Donc, voilà, c'est à grande distance. On communique avec ce robot via des relais, qui sont, par exemple, ce qu'on appelle les orbiteurs, d'autres robots eux-mêmes qui tournent autour de Mars, une chaîne de commandes où on se passe les informations des uns aux autres, depuis la Terre jusqu'à Mars. Les données sont prises et reviennent chez nous. Et ce qu'on fait à chaque fois qu'on commande notre robot, c'est qu'on lui envoie des lignes de calcul. On lui dit, ben voilà, tu dois faire ça, demain tu roules, tu tournes à droite, tu te déplaces à gauche, tu fais des tirs laser, ça c'est ce qui nous concerne, ou bien des analyses de gaz, ça ce qui va concerner plutôt l'instrument SAM. On le commande par radio. Et bien là, par radio, on lui a dit, on va te déconnecter ton cerveau pour cet instrument ChemCam et on va te donner une nouvelle intelligence. On lui a envoyé ça dans un petit fichier par radio. On lui dit, ben voilà, demain à telle heure, tu passes sur ton nouveau cerveau et on va faire des tests pour voir si ça marche, et ça a marché. Voilà. On est très fiers de cette réparation où on pense que de livrer déjà un instrument qui fonctionnait sur Mars, c'est une belle épreuve. Il a fonctionné pendant plus de 2 ans et puis pendant quelques mois, il a eu un souci. On le répare maintenant, il est comme neuf. Eh bien, oui, on est fiers comme ça, à distance, de faire cette réparation. Et c'est un instrument, voilà, qui, on espère, aura une nouvelle vie.
Monsieur Sylvestre Maurice, chercheur CNRS à l'Université Toulouse 3, qui était joint en France. Ici Washington, Carrefour Science et Santé est diffusé par VOA Afrique. Grosse déception pour l'agence spatiale américaine, la NASA, cette semaine. Pour la deuxième fois, elle a échoué à déployer complètement son parachute supersonique géant. Je laisse Chérubin Dorcil expliquer.
Ce parachute est destiné à freiner une sorte de soucoupe volante pesant environ 3 tonnes et allant à deux fois la vitesse du son. Tout cela en vue de futurs atterrissages de vaisseaux spatiaux transportant des êtres humains vers Mars. L'appareil de la NASA, surnommé le Low Density Supersonic Decelerator, s'est donc écrasé dans l'océan Pacifique quelques heures après avoir gagné l'espace grâce à un ballon géant rempli d'hélium lâché à partir d'une base militaire américaine à Hawaï. Selon le centre de contrôle, le parachute s'est déployé mais sans se gonfler. Ce qui était déjà arrivé lors de la première tentative d'atterrissage en juin 2014, lorsque le parachute s'était déchiré au tout début de la descente. La NASA a ensuite modifié sa conception, mais le second parachute a donc connu le même sort. Le parachute LDSD fait 30 mètres de diamètre et doit réduire la vitesse d'entrée du véhicule de Mach 2,5 à une vitesse subsonique, ce qui permettra au vaisseau spatial qui transportera éventuellement des astronautes vers Mars de ne pas s'écraser à la surface de la planète rouge. Toujours concernant l'espace, le vaisseau spatial LightSail, qui avait sombré dans le mutisme le plus total en mai, a redonné signe de vie. Ce vaisseau expérimental, mis au point par l'institut privé Planetary Society, doit tester un tout nouveau système de propulsion spatiale, la voile solaire. La technologie utilise la pression des photons de la lumière du soleil, rebondissant sur une voile très fine pour générer un mouvement vers l'avant. Alors que la voile était en train de se déployer, le module avait cessé toute communication avec la base. Mais les scientifiques ont pu redémarrer l'ordinateur de LightSail et les ingénieurs ont enfin pu déployer ses panneaux solaires. S'il fait ses preuves, ce nouveau moyen de propulsion pourrait révolutionner la conquête spatiale, affirment les scientifiques.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. Le débat sur le protocole de fin de vie a rebondi en France suite à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a validé récemment l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. Ce jeune patient tétraplégique, âgé de 38 ans, est dans un état végétatif depuis 7 ans suite à un accident de la route. Après des années de contentieux judiciaires, les juges européens ont tranché. Le fait d'interrompre l'alimentation et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert ne bafoue pas la Convention européenne des droits de l'homme. Si l'euthanasie reste illégale en France, des médecins peuvent se prononcer en faveur de la mise en œuvre du protocole de fin de vie. L'épouse de M. Lambert, Rachel, a réagi au verdict.
Il n'y a pas de joie à exprimer. Et pour reprendre une expression d'une des demi-sœurs de Vincent, on aimerait que sa volonté soit faite.
Madame Rachel Lambert a noté que les parents de Vincent Lambert s'opposent toujours à ce qu'on le laisse mourir. Ils comptent multiplier les recours devant la justice française. On écoute leur avocat, Maître Jérôme Triomphe.
Cet arrêt qui va tellement à l'encontre des principes qui ont présidé à la création de la Convention, cet arrêt qui constitue un déni de la mission de la Cour européenne des droits de l'homme, cet arrêt est tellement grossier qu'il en perd aujourd'hui toute légitimité. Nous ne laisserons pas quelques robes noires et blouses blanches mettre à mort Vincent Lambert qui est vulnérable et sans défense.
Maître Jérôme Triomphe, ici aux États-Unis, le droit à mourir dignement progresse. Début juin, les élus de la Californie ont voté en faveur d'un projet de loi qui permettrait aux patients en phase terminale de mettre fin à leurs jours avec des médicaments prescrits par leur médecin, ce qui est déjà possible dans certains des États de l'Union tels que l'Oregon ou le Washington. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.